Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Depuis le 1er décembre dernier, nous sommes dans le temps de l'Avent, un temps d'attente proposé chaque année, une attente avec des hauts et des bas, une attente que l'Église nous invite à vivre comme la préparation d'un rendez-vous avec une personne, le seul enfant Dieu de l'histoire, en tout cas c'est la foi des chrétiens. À mi-chemin ou presque de ce parcours, je vous propose de passer par la médiation de la peinture pour entrer plus avant dans ce rendez-vous, la peinture, cette projection de la vie de nos âmes, ce lieu de tension entre ce que l'on est et ce que l'on voudrait être. L'Avent en peinture au fil des siècles, c'est l'ambitieux thème de cette émission Vivante Église ce matin. Pour nous en parler, François de Malafosse, vous êtes commissaire-priseur à Toulouse. Bonjour.
Bonjour Emmanuel Pella,
merci
de me recevoir.
Merci beaucoup d'être venu, d'avoir pris du temps sur votre agenda qu'on imagine bien chargé. Donc c'est un défi, c'est pas la première fois qu'on se fixe ce défi, on va essayer de parler peinture à la radio. Voilà, on a un évêque qui nous invite à faire de la place, faire place au silence sur une antenne de radio, et en plus on essaie de parler de la peinture, que de défis. On va commencer par une question un petit peu ouverte. François de Malafosse, un commissaire-priseur en entendu parler récemment, en tout cas on en avait fait venir à cette antenne à l'occasion de ce tableau du Caravage. Comment vous présenteriez à la fois votre profession et votre passion pour la peinture ?
Alors, le commissaire-priseur, ce n'est pas que la peinture. La peinture n'est qu'une partie évidemment de notre métier, parce qu'après il y a le mobilier, il y a les bijoux, il y a l'art d'Asie, etc. Mon métier, je le décrirais comme un métier un peu passion, un métier de découvreur, si vous voulez. Mon métier est d'aller, mon agenda est fait de rendez-vous à droite, à gauche, chez des gens, et d'essayer de redonner un peu une identité aux objets qu'on a fini par oublier parfois, à les décrire et à les estimer, et voilà, parfois à redécouvrir des choses qui étaient oubliées à la cave et au grenier, et de leur redonner une identité, de leur permettre de passer à nouveau par d'autres mains et de passer comme ça dans l'histoire à travers le temps, ce qui est être un passeur en fait, ce qui est très agréable. Voilà.
L'autre question qu'on se pose, c'est que même le mobilier n'est pas forcément sacré, mais la peinture, en tout cas une bonne partie de la peinture l'a été.
Oui.
Donc c'est un métier où on côtoie la chose sacrée. Alors je vais pas vous demander de révéler des choses qui relèvent du fort intime, mais en ça fait partie peut-être des rares métiers où quand même le sacré fait partie aussi de votre profession, non ?
Oui, pour tout ce qui est la peinture ancienne, en tout cas, le sacré baigne cette culture-là, et ce qui explique peut-être aussi en grande partie le manque d'intérêt aujourd'hui pour la peinture ancienne, c'est que beaucoup ne la comprennent plus. C'est-à-dire que pour comprendre la peinture ancienne, il faut être un peu baigné d'une culture classique, on va dire, dans lequel le message des évangiles, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, ont un rôle très important, c'est-à-dire qu'ils sont le sujet de beaucoup de peintures. Et aujourd'hui, on remarque chez les jeunes générations, ou du moins dans notre génération, dans le temps dans lequel nous sommes, une perte d'intérêt qui se justifie beaucoup, voilà ce que je disais, par une perte de la manière de comprendre le message du tableau. Il y avait à l'époque une façon de lire une image. Hein.
Il y avait une intention aussi de la part du peintre qui était
absolument
de donner à voir un mystère.
Il y a l'artiste qui est très important, mais il y a celui qui regarde. Le spectateur a un rôle à chaque fois. De la même façon que quand nous sommes aujourd'hui dans la cathédrale de Chartres, nous avons du mal à lire les vitraux, ce qui était à l'époque à la portée de n'importe quelle personne qui visitait la cathédrale de Chartres. Ça faisait partie de son éducation, de l'éducation de son œil, de savoir lire un vitraux de bas en haut, de gauche à droite. C'est quelque chose que nous avons perdu. Aujourd'hui, nous avons un peu perdu la manière de donner sens à une image figée, à une peinture, ou du moins plutôt, à partir de cette image figée, de raconter l'histoire, de savoir en tirer l'histoire, les enseignements que veut nous donner le peintre. Aujourd'hui, nous sommes dans une culture d'images qui se suivent, la télévision, le cinéma. Notre œil sait interpréter ça. je ne sais pas du tout si dans 4 siècles, 5 siècles, on saura faire de même. Et quand on regardera un film de notre époque, si on sera en capacité de le comprendre tel que nous le comprenions. Mais en tout cas, nous, nous peinons à déchiffrer, à comprendre, à interpréter les messages des siècles précédents.
Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de voir donc, au long de l'histoire de la peinture avec 3, 4, voire enfin, 5 tableaux. Donc aussi l'évolution de, comment dire, de la représentation de la nativité et de la compréhension du monde de l'homme du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui et de l'idée qu'il se fait de Dieu. On commence par une peinture de Giotto, donc grand peintre de la Renaissance italienne. Est-ce que vous pouvez commencer par nous décrire ce tableau?
Oui, alors peintre de la Renaissance qui annonce la Renaissance italienne, pardon. Ce qui est important parce que Giotto est un peintre du Trecento, hein, des années 1300, qui annonce en fait le Quattrocento, qui va être celui de la Renaissance, de l'humanisme à Florence, Sienne, etc. Donc ce tableau, comment vous le décrire? Alors c'est une fresque qui est tiré d'un cycle qui est peint à Padoue, parce que Giotto est un peintre qui a été très itinérant. On le retrouve à Assise, à Rome, à Rimini, à Padoue. Et donc, à Padoue, il s'arrête, il va peindre toute une chapelle, un ensemble de 53 fresques, pour la chapelle des Scrovigni, qui raconte l'histoire du Christ. Donc, évidemment, la nativité se place au commencement, après l'Annonciation.
À quoi ressemble le tableau, pour commencer?
Alors, le tableau ressemble, on est...
Faites-nous là, une photo.
Alors, je vais essayer de vous le décrire, ce qui relève de la gageure à la radio, mais je vais essayer. On est dans un environnement qui est montagneux, qui est extrêmement mystérieux. On a deux blocs rocheux très forts, un ciel qui est azur. Et dans ce paysage qui n'a pas de perspective encore à l'époque, est posé comme ça, dans ce qui semble être une grotte au milieu de cette montagne, une étable qui est solide mais très simple, d'accord ? Sous cette étable, on a la Vierge Marie qui est allongée, ce qui est extrêmement rare, les représentations de la Vierge allongée, et qui vient prendre d'une servante ou de Sainte Anne qui est à l'extérieur de l'étable, vient lui prendre avec grande douceur et un sentiment de maternité évident, l'enfant Jésus qui est emmailloté. Au-dessus de cette étable, on a 5 anges dans des positions diverses. Certains semblent chanter la naissance du Christ. Et un dernier, qui est très amusant, est baissé vers 2 bergers qui nous tournent le dos. Alors ça, c'est une nouveauté complète en peinture. On n'a jamais représenté des personnages de dos. Fait partie de la révolution de Giotto. 2 bergers qui sont peut-être les humains, si vous voulez, vous et moi, qui attendons du ciel un peu l'interprétation de l'événement qui est en train de se passer, qui ne comprennent peut-être pas, c'est pour ça qu'ils nous tournent le dos, hein, on évite comme ça de lire peut-être leurs impressions, et ils sont tournés vers saint ange qui, d'un mouvement de la main, semble leur annoncer une parole extrêmement rassurante. Voilà. Hors de l'étable et devant nous, ce qui est étonnant, mais pas tellement, puisque c'est ainsi qu'on va souvent le représenter, et un peu éloigné de la Vierge et de l'enfant, Joseph, on ne sait pas, il est comme assis, est-ce qu'il est songeur, est-ce qu'il est inquiet en connaissant l'avenir qui est réservé à son enfant, ou est-ce qu'il est tout simplement endormi, ce qui montrerait peut-être que lui n'a pas part, comme il n'est que humain, à ce qui se passe sous cette étable et qui, en fait, l'étable représente l'Église en général, bien souvent, ou le monde terrestre, le passage de l'enfant Jésus qui vient de l'extérieur de cette Église ou de ce monde terrestre et qui, grâce à sa mère, grâce aux mains de sa mère, est amené comme ça au monde.
Est-ce que vous pouvez dire un mot aussi des auréoles? C'est important, non?
Les auréoles, oui. Alors, ils sont que quelques-uns à les avoir. Il y a évidemment Marie et l'enfant Jésus. Joseph, qui est devant nous. Alors, c'est quasiment une manière de le réhabiliter, je vais dire, parce qu'il est tellement extérieur à cette scène, qu'il semble tellement ne pas comprendre ce qui se passe, que cette auréole vient nous dire que si, bon, peut-être qu'en fait, il est flottant entre les bergers et ce qui se passe dans les tables, entre les bergers qui tournent quasiment le dos au spectateur et ce qui se passe sous les tables. Et après, les 5 anges, voilà, ce sont les 5 personnes les 8 personnes qui ont cette auréole.
Et les bergers n'en ont pas. Alors juste, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de Giotto? Vous avez commencé à décrire dans quelle commande s'inscrivait le tableau. Giotto, et puis cette époque de la peinture, le Trecento, donc prémisse de la Renaissance italienne.
Prémisse de la Renaissance et donc prémisse de l'humanisme. Et donc c'est très intéressant intéressant d'avoir une peinture de cette époque-là, parce qu'elle montre, si vous voulez, la transition entre deux mondes, le monde moyenâgeux et le monde de l'humanisme, celui de la Renaissance. Et évidemment, cela a un impact sur la manière dont on conçoit Dieu et la religion, la manière dont elle s'inscrit dans le monde, et beaucoup de choses montrent, si vous voulez, dans ce tableau qu'on est dans un passage. Alors, du Moyen-Âge, on garde dans ce tableau l'idée de merveilleux médiéval qui fait que quand on représente Dieu, on est hors du temps et hors d'un environnement connu. Là, c'est assez évident, quand on regarde les montagnes, elles sont ni des montagnes italiennes, ni des montagnes propres à la Judée. Enfin, ce sont des montagnes comme ça qui représentent la terre, mais rien de plus. Pareil pour le ciel azur. On ne peut pas vous dire si c'est le matin, à midi ou le soir. De la même façon, pour les personnages, quels sont leurs habits? Est-ce que ce sont vraiment des habits de l'époque de Giotto? Je ne pense pas. Peut-être pour les bergers, pas pour le reste. Hein. Donc, on reste dans cette tradition médiévale où tout baigne dans un ordre théologique pur et puissant, si vous voulez, où il n'y a pas de séparation évidente entre le terrestre et le céleste. Peut-être, comme je l'ai dit précédemment, juste ce petit bâtiment, cette étable qui montre que peut-être la présence de l'Église et la présence d'un milieu de la foi et d'un milieu de l'extérieur.
Est-ce que vous pouvez du coup en profiter pour dire, rappeler quelle était aussi l'idée de Dieu, enfin, ou la place de Dieu au Moyen-Âge ? C'est-à-dire que le monde était ordonné autour de...
Le monde est ordonné autour de Dieu. Dans le Moyen-Âge, Dieu, si vous voulez, est partout dans la société. Il n'y a pas... La confusion est totale entre le pouvoir social, le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Je grossis un peu le trait, évidemment. Il y a plein de nuances à apporter, surtout dans cette fin de Moyen-Âge. Mais l'image de Dieu est partout. Il n'y a pas de séparation qui va arriver avec le début de l'humanisme, où l'homme va se retrouver un peu au centre de la quête de savoir, et ce qui va être le début d'une séparation, puisque Dieu va se retrouver objet aussi de l'inspection humaine, si vous voulez. On va se poser la question de Dieu, et donc on va recentrer autour de l'homme le fait d'observer tout ce qui est extérieur à lui, aussi bien la nature que ce qui est religieux.
Donc tout l'art qui précède Giotto, et même si là donc c'est le début d'une transition, c'était un art qui était d'abord là pour magnifier la grandeur de Dieu et pour donner à contempler ce sont les cathédrales gothiques et autres.
Absolument. Et ce qu'on retrouve même encore chez le maître de Giotto, qui est Cimabue, hein, c'est un profond hiératisme. C'est-à-dire que tout est fait pour montrer la splendeur, si vous voulez, de Dieu et la chose quasiment non terrestre de tout ce qui est divin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'individualisation des traits du visage, il n'y a pas de manière de rapprocher de quelque manière que ce soit de ce qui est humain. Et là,
c'est le début d'une transition.
C'est le début.
Ça ressemble à la fois à une icône, absolument. Et en même temps, ça n'est plus tout à fait.
On
une
a
icône.
Le fond d'une icône avec ses bleus et on a ses couleurs chaudes et ses visages qui sont déjà la Renaissance. Quand vous regardez la Vierge, on a déjà mis le pied dans quelque chose de naturaliste. Son visage est d'une profonde tendresse à l'inverse pour son enfant. Donc on a déjà, c'est plus la Vierge et son enfant. C'est une mère et son enfant. Et ça, c'est très important. C'est un virage qui est très important dans l'histoire de la peinture, dans l'histoire de la conception de la religion.
Quelques mots supplémentaires avant qu'on fasse une première pause sur ce peintre, Giotto. Est-ce que lui-même est représentatif un peu de son histoire, par hasard, serait représentatif de ce mouvement entre un dieu...
Par sa vie, vous voulez dire?
Oui, par sa vie.
C'est très compliqué à dire, ça. Parce qu'en fait, ce sont des gens... Souvent, ils étaient artisans avant d'être artistes. C'est pour Giotto qu'on invente le terme d'artiste. Mais eux se considéraient comme artisans. Donc, ils allaient comme ça, de ville en ville, de monastère en monastère, pour peindre. Mais ils n'avaient pas le sentiment de créer des révolutions. C'est la manière dont on conçoit l'artiste aujourd'hui, en art depuis le 19e siècle, qui est d'aller de courant en courant, de révolution en révolution et de manière de tirer complètement un trait sur le passé pour créer quelque chose de très nouveau qui choque parce qu'on avance. Il n'y a pas du tout cette idée-là à l'époque. On est dans une continuité. Pour Giotto, je suis persuadé qu'il y avait l'idée d'être dans une continuité par rapport à ses ancêtres, hein, par rapport aux peintres dans la tradition dans laquelle il était, et qui était de continuer un même message. Alors après, Il baignait dans son temps et ce temps était en train de changer. Et c'est peut-être ça que l'on voit aujourd'hui sans que lui, peut-être, en ait eu trop connaissance.
François de Malafaux, si on devait résumer de quelques mots ou de quelques phrases, si on se plonge donc dans la peinture de Giotto et dans ses nativités, ça chacun peut le faire pendant l'émission ou après l'émission, qu'est-ce qu'on peut garder comme message spirituel qui peut nous inspirer à l'occasion de cet avant ?
Avant toute chose, c'est le regard de la mère vers son enfant, cette profonde tendresse qui ressort de cette nativité. C'est-à-dire que c'est une relation mère-fils qui est à portée, si vous voulez, d'homme. Ce n'est plus quelque chose duquel on est complètement exclu par ce qu'on parlait de hiératisme ou d'un monde céleste qui nous échappe. Là, on voit une mère qui prend son enfant, qui est dans les langes, et qui le prend et qui va, en fait, on devine un peu ce qu'elle va faire. Elle va le protéger, le prendre dans ses bras comme n'importe quelle mère ferait, hein. Donc c'est la première chose, c'est cette tendresse qui est complètement nouvelle et qui est extrêmement rassurante dans le message de la nativité que l'on a là, si vous voulez. C'est dans la conception de la nativité, il ne faut pas oublier le message d'espoir qu'il y a souvent dans ces peintures et qui coupe avec beaucoup de peintures de martyrs, de calvaires qui sont très propres à la religion catholique. Là, la nativité est un message avant tout rassurant, de tendresse et d'espoir et de joie.
Eh ben bravo, on va continuer cette émission après une première pause musicale. On se posera entre autres dans une peinture donc de Georges Delatour et vous nous expliquerez pourquoi vous avez fait ce choix.
Emmanuel Pella.
L'Avent en peinture au fil des siècles, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour nous aider dans ce parcours, François de Malafos, commissaire-priseur à Toulouse. Dans cette deuxième partie d'émission, donc on a choisi un autre tableau. Peut-être vous nous parlerez de d'autres tableaux, mais le principal qu'on a choisi, donc, qui est un tableau de Georges de la Tour, c'est aussi une nativité, probablement plus connue de nos auditeurs. Allez, on va commencer par la décrire, tout simplement. Vous nous faites comme si on était au musée et qu'on était des aveugles.
Alors, dans quel musée déjà ? C'est assez simple d'aller la voir, puisqu'elle est au musée des Beaux-Arts de Rennes. C'est un tableau qui est daté de 1648, hein, donc, c'est-à-dire de la fin de la vie de Georges de la Tour. Donc, comment vous décrire ce tableau ? C'est très simple, en somme. On est dans une ambiance extrêmement sombre. Le fond est noir, sans détails. Quand je dis noir, ça passe du marron foncé au noir. Et on a trois personnages. On a la Vierge Marie, qui est dans une robe rouge et qui nous fait face dans la partie droite du tableau, et qui tient dans ses bras l'enfant Jésus, qui est entièrement emmailloté. Hein, comme s'il est un être un peu fragile, besoin d'être protégé. Elle le tient entre ses deux bras. La main gauche vient le soutenir comme ça par les épaules, tandis que la main droite, dans un geste plus protecteur, vient se mettre sur les jambes de l'enfant qui se trouve donc et supporté et protégé par sa mère.
Il est emmailloté ?
Emmailloté intégralement.
Voilà. C'est un cadrage serré aussi, hein ?
Un cadrage qui est très serré. Et chose particulière, l'enfant Jésus est vu de profil, entièrement. C'est-à-dire qu'il est endormi, bouche ouverte, donc dans l'expression d'un enfant, un enfant normal, entre guillemets. Il a un teint extrêmement pâle. Et ce qui frappe avant toute chose, c'est son côté d'être voilà, un enfant parmi tant d'autres, la fragilité comme n'importe quel enfant.
C'est un vrai bébé.
C'est un vrai bébé.
C'était une des premières fois dans l'histoire de la peinture qu'on représentait Jésus comme un nouveau-né, comme un autre.
C'est à cette époque-là qu'on commence à représenter les enfants comme des enfants. Jusqu'à la Renaissance, il n'y a pas que l'enfant Jésus qu'on représentait comme des adultes en miniature, si vous voulez. Il a fallu beaucoup de temps pour comprendre l'enfant comme un enfant parmi tant d'autres.
Hein. Alors, si on continue la description, peut-être vous pouvez dire quelque chose aussi de l'autre personnage, et après des regards aussi.
C'est que la Vierge à l'enfant et l'enfant ne prennent que le côté droit du tableau. Le côté gauche, lui, est pris par soit Sainte Anne, soit une servante, c'est probablement Sainte Anne, qui est de profil, elle, et qui regarde donc sa fille et son petit-fils, et elle tient dans la main gauche une bougie.
Qu'on ne voit pas tout à fait.
Qu'on ne voit pas, puisqu'elle vient nous protéger de cette lumière par sa main droite. Donc elle protège le spectateur de sa main droite, qui n'est pas ébloui, et sa main droite, comme un réflecteur, si vous voulez, vient baigner de cette lumière artificielle, qui n'est pas naturelle, la scène des visages et au centre de l'enfant Jésus.
Donc toute la lumière vient de cette bougie qu'on ne voit pas.
Toute la lumière vient absolument de la bougie. Donc la lumière vient de la terre, elle ne vient plus du ciel, ce qui a de nombreuses répercussions. Voilà. Donc,
sur les regards aussi, c'est-à-dire qu'en fait, personne ne regarde personne. Les regards sont dans le vague.
Absolument. L'enfant Jésus, dans de nombreuses peintures de la Renaissance et qui précèdent Georges de la Tour, regarde souvent le ciel. Hein, sa mère le regarde et lui regarde le ciel. C'est-à-dire que sa mère a ce regard protecteur ou du moins souvent tristesse, rassurée de cet enfant dont elle connaît l'avenir. Hein, puisque avec l'Annonciation, elle connaît tout. Et l'enfant, lui, regarde ailleurs. C'est-à-dire regarde lui aussi son avenir, si vous voulez.
Mais j'ai souvenir aussi de Christ qui sont un petit peu, justement, comme il disait, hiératiques, qui semblent trôner.
Ça, c'est dans
sur
le Moyen-Âge. Je vous parle à partir de la Renaissance.
D'accord.
Des différents regards qu'on peut avoir. Donc personne ne regarde personne, vous faites très bien de le dire. C'est-à-dire que le Christ, lui, là, ne regarde absolument pas le ciel, il dort. Hein? Donc il est un enfant parmi tant d'autres. Et Sainte Anne, elle, regarde avec ce qui peut paraître être une profonde mélancolie ou une angoisse un peu. Elle regarde ailleurs. Il n'y a pas de gaieté dans ce tableau. Il y a une profonde sérénité, d'accord, mais il n'y a pas de gaieté. Et c'est très fort, ça.
Ces personnages aussi, ça pourrait être quoi, n'importe qui. C'est plutôt des petites gens, même si l'expression n'est pas très heureuse.
Alors, ça pourrait être n'importe qui, absolument.
Ce sont pas des bourgeois, en tout cas.
Non, ce sont pas, du moins, de grands bourgeois. C'est-à-dire que les vêtements ne laissent pas traduire de profondes richesses. Ce sont pas non plus probablement des paysans, si vous voulez, profonds. Mon expression n'est pas très bien choisie non plus. C'est-à-dire que voilà, la mise est simple, mais propre. Hein. Y a pas, comme chez Georges de la Tour parfois, vous savez, ses ongles sales ou ses, qui montrent qu'on est dans
la vraie vie.
Dans la vraie vie, voilà, ou dans des couches populaires. Là, non. C'est propre, c'est simple, mais c'est propre. Voilà.
Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce tableau ? Qu'est-ce qui vient signifier un peu dans l'histoire de la peinture ?
Alors, il est, si vous voulez, propre à ce moment du temps, à ce moment un peu d'angoisse qu'il y a et de remise en question de la sérénité religieuse qu'on pouvait trouver avant.
Donc si on est au XVIIe siècle, on le rappelle.
On est au XVIIe siècle, oui. Georges de la Tour est un peintre du début du XVIIe siècle. Qui naît en Lorraine.
Parlez-nous du peintre.
Oui,
même si on sait peu de choses.
Très rapidement, on ne sait pas grand-chose, oui, de Georges de la Tour. Donc, il naît en Lorraine, ce qui est important, puisque c'est une place assez centrale en Europe, et surtout à cette période-là, où on va être au début du commencement de la guerre de 30 ans, qui va être une guerre européenne, qui va voir s'affronter tous les pays de cette région d'Europe centrale. Et la Lorraine va être un pays qui va voir passer les armées de pays et d'autres. Donc, elle va voir les armées nordiques, protestantes, les armées françaises, catholiques, et qui la place aussi vers la route vers l'Italie, ce qui fait que Georges de la Tour est au croisement de toutes ces, de toutes ces cultures, ce qui va avoir une importance d'un point de vue philosophique, mais aussi d'un point de vue pictural. Alors, Georges de la Tour, à l'époque, c'est pas n'importe qui, si vous voulez. C'est le peintre de la cour de Lorraine. Hein, donc, il est extrêmement connu à son époque. Sa peinture est extrêmement appréciée par les grands de Lorraine. Et au moment où il va y avoir les troubles en Lorraine pendant la guerre de 30 ans, il va se réfugier à la cour de France, où il va aussi trouver une place importante. Donc, production qui est abondante et qui est recherchée par les grands de ce monde à cette époque. Et ce qui est extrêmement étrange, c'est qu'il va mourir en 1652 et qu'il va tomber dans un oubli total. C'est-à-dire que son œuvre, dans les musées dans lesquels il est, ne sera plus attribuée à Georges de la Tour, elle va être attribuée à d'autres peintres, héritiers de Caravage, qui eux aussi travaillent sur ce clair-obscur. Et ce n'est qu'à la fin du 19e qu'on va le redécouvrir, hein, et surtout grâce à des travaux de conservateurs français tout au début du 20e siècle, jusqu'à une exposition à l'Orangerie du Jardin des Tuileries qui aura lieu en 1934 sur les peintres de la réalité et ce retour de la science française sur ces peintres qui suivent le caravagisme. Voilà.
Alors, que dit sa peinture ? Vous avez tout commencé à dire que c'était une époque troublée, c'est l'époque de la guerre des religions.
Oui.
Alors, quel lien on peut faire entre cette époque troublée ?
Nous traduit beaucoup l'angoisse qu'il y a chez les personnes qui connaissent ce début de XVIIe siècle. Donc, déjà une angoisse pour les gens qui habitent en Lorraine, qui est politique. C'est-à-dire qu'ils vont voir leur pays entièrement dévasté par des armées qui vont passer, repasser dans un sens et puis dans l'autre.
D'où la tristesse ou la mélancolie un peu du tableau, c'est ça ?
Mais ce n'est pas tout, si vous voulez. C'est qu'il y a cette angoisse politique, mais il y a aussi une angoisse philosophique. C'est que le début du XVIIe siècle, c'est la révolution copernicienne. Et d'un homme qui était placé au centre de la création, c'est-à-dire au centre... Dieu, que Dieu avait placé au centre de l'univers et au centre de sa création, avec la révolution copernicienne, se retrouve, lui, un petit point parmi tant d'autres dans l'univers. C'est-à-dire que, eh bien, on s'aperçoit que la Terre tourne autour du Soleil, elle n'est plus le centre du monde, le centre de l'univers. L'homme se retrouve au centre d'un univers infini, si vous voulez, noir, obscur et plein de mystères, et il se retrouve tournant autour du soleil, c'est-à-dire qu'il n'est plus, il se rend compte qu'il n'est plus placé là par Dieu pour dominer toute la création. Ce n'est plus tout à fait ça, il est perdu dans un univers qu'il dépasse un peu, qui est plein de mystères, et c'est la perte de beaucoup de certitudes et qui sera la source de beaucoup d'angoisse. Et
alors,
quand je parle d'angoisse philosophique, ça se manifeste notamment avec la philosophie cartésienne et cette philosophie du doute qui en fait ne fait que traduire les angoisses de cette époque-là, où on veut construire sur quelque chose de solide, sur des certitudes solides. Au moins, partons, s'il y a moins de certitudes, retrouvons des certitudes certaines.
Alors François de Malafosse, on entend tout ça. Maintenant, c'est vrai que quand on regarde ce tableau, certes, il y a beaucoup de noir. Certes, il y a des regards qui ne vous prennent pas à témoin, en tout cas qui sont dans le vague, il y a une certaine mélancolie. Mais c'est aussi une nativité qui est offerte aux spectateurs que nous sommes, qui nous fait rentrer dans une intimité qui est aussi paisible, simple, proche. Donc
oui, c'est très vrai ce que vous dites. C'est-à-dire que on a une nativité qui est à hauteur d'homme, si vous voulez. On voit la Vierge assise, les genoux quasiment au niveau du spectateur. Et donc, si vous voulez, on n'est pas dominé. On a le Christ à hauteur de visage, si vous voulez, quand on visite le musée. Et grâce à la bougie, on nous dévoile en quelque sorte cette scène et dont on est témoin, si vous voulez. Quand on passe devant ce tableau, en fait, ils ne sont plus trois, ils ne sont plus que Sainte-Anne, la Vierge et l'enfant, on est au milieu d'eux. Mais on est dans une profonde solitude avec eux. On est avec eux plongés dans la nuit, absolument plus comme chez Giotto, au milieu de tout cet univers extrêmement coloré, extrêmement rassurant, avec les anges qui triomphent, non plus comme chez Piero della Francesca au Quattrocento, avec des anges musiciens qui viennent chanter avec nous. Plus du tout ça. On est avec eux dans cette ambiance extrêmement mystérieuse. On est seul avec eux. Et c'est ça qui est important aussi, c'est de voir que la nativité n'est plus du tout cette joie-là. On est témoin de leur solitude et du fait que cette naissance a eu lieu dans une nuit, dans un profond mystère. Et que si oui, la mère se baisse et protège l'enfant, son regard montre que l'avenir n'est pas si joyeux que ça et qu'il y a une profonde tristesse dont on est témoin.
Comme il nous reste un petit peu de temps, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du Caravage, parce que le clair-obscur aussi de ce tableau, donc de Georges de la Tour, semble-t-il, n'était pas sans inspiration venue du côté du Caravage, le Caravage dont on a donc beaucoup parlé récemment. On va peut-être pas décrire une nativité du Caravage, mais qu'est-ce que le Caravage est venu apporter, on va dire, de si important dans l'histoire de la peinture, et ce qu'il dit aussi, peut-être un petit peu de la manière dont Dieu est regardé ou présenté.
Alors, il y aurait peut-être une grande surprise d'une nativité un jour de Caravage, parce qu'il y a eu une nativité qui existait dans une église, mais qui a été volée dans les années 60, on pense par la mafia.
Et qui est toujours recherchée par les autorités italiennes.
Qui est toujours recherchée, bien que on pense qu'elle ait été détruite pour ne pas laisser de traces. Voilà, donc j'espère que ce n'est pas ce drame d'une disparition, et qu'un jour, comme le Caravage de Toulouse, elle réapparaîtra, peut-être même dans quelques siècles, et qu'elle fera l'objet d'une actualité sulfureuse à la hauteur du peintre qui était Caravage. Donc Caravage, si vous voulez, c'est une grande révolution dans la peinture. On en a beaucoup parlé à Toulouse et dans le monde entier grâce au tableau de mon confrère Marc Labarbe. C'est-à-dire, on va revenir à un naturalisme fort et c'est une révolution complète, si vous voulez. Tout change, la manière de concevoir l'homme, de la manière de concevoir l'environnement dans lequel on représente la peinture et la manière de choisir, la manière dont on traite les couleurs, dont on traite les formes, dont on traite l'action, etc. Voilà. Donc si vous prenez par exemple l'image de la nativité qui existe, je ne sais pas si c'est ce que vous souhaitez qu'on fasse.
Pas, hein. Si vous n'êtes pas forcément obligé de la décrire, mais en tout cas, est-ce que vous pouvez nous insister sur justement ce réaliste? Il y a des vierges parfois qui ont les pieds sales, je ne sais pas si c'est le cas dans ce tableau.
Oui, absolument.
Les sujets sont choisis dans les tavernes.
Oui, Caravage, c'est le peintre sulfureux par excellence, si vous voulez. Donc c'est un peintre qui va mourir très jeune, en exil, qui sera poursuivi, si vous voulez, pour meurtre, à raison ou pas, condamné par contumace. Donc vraiment, tout le symbole du peintre maudit, dont on va développer le culte un peu au 19e, il incarne tout ça vraiment très fort. Ce qui frappe quand on voit les peintures de Caravage, les peintures religieuses de Caravage, c'est la césure complète entre un avant et ce qu'il va proposer après, et la diffusion de cet art-là qui aura un écho énorme. C'est-à-dire que dans toutes les cours d'Europe, il y a vraiment un avant et un après Caravage, et dans la manière de traiter. Ça ira jusqu'en Espagne, on le voit en France avec Georges de la Tour. C'est ces fonds extrêmement sombres et ces personnages traités de manière extrêmement réelle. Et ça a choqué d'autant plus à l'époque quand on prenait un sujet religieux. Il ne faut pas oublier qu'on est à deux siècles de Giotto, hein, d'un monde médiéval où tout est irréel et où tout est magnifié. Là, au contraire, on va prendre pour représenter les saints ou pour représenter les femmes religieuses ou les saintes des personnages tirés des tavernes, des personnes de très basse vertu, et ça se voit. Si vous voulez. C'est-à-dire que vous avez là des personnages dans la crèche qui ont les jambes complètement nues, les jambes sales, les mains dégoûtantes. La Vierge, par exemple, dans la nativité avec Saint-François et Saint-Laurent, donc le tableau perdu, dont on a quand même quelques images, est complètement déguenillé, si vous voulez. Elle n'a même pas les épaules couvertes, ce qui à l'époque est un peu scandaleux. Et elle regarde son fils comme épuisé, si vous voulez, d'une nuit de la naissance, évidemment, mais peut-être d'autres choses que l'on ne connaît pas. En fait, c'est une femme du monde, parmi tant d'autres, épuisée comme beaucoup de femmes, et qui peut-être a fait la fête avec d'autres personnes qui arrivent comme ça, des bergers qu'on voit sur le côté, qui sont extrêmement sale. Voilà.
Alors, Caravage, pour autant, avait donc la vie que vous avez commencé à décrire, mais en même temps, à sa manière, c'est un grand mystique. C'était un homme qui était
traversé. À sa manière, c'est un grand mystique, et comme voilà. tous les grands génies.
Qu'est-ce que ça dit de Dieu ? C'est-à-dire, il y a aussi un Dieu qui plonge jusqu'au plus profond de ce qui fait notre humanité.
Exactement. Est-ce que c'est pas le retour premier à l'étable, si vous voulez ? C'est-à-dire que, de la même façon que ils sont partis pour sous cette étable en exil, en quelque sorte, dans des conditions extrêmement difficiles, Caravage vient remettre ses scènes, et tous les caravagesques remettent les scènes divines au milieu du peuple, si vous voulez. On le retrouve chez Georges de la Tour, là. On est dans une maison, peut-être, petite bourgeoise. Chez Caravage, on est au milieu de fermes, où on est au milieu de gens du monde, vraiment, au bas du bas. Et donc, c'est...
C'est le bout du bout de l'incarnation.
C'est voilà. Le bout du bout
Dieu
de l'incarnation.
Qui vient jusque dans nos misères.
C'est exactement ça. De la même façon qu'il était venu naître en exil au milieu du monde, là, on le représente dans l'actualité de l'époque, naître au milieu des gens de son époque, sans être né, comme c'est le cas, par exemple, chez Gentile da Fabriano, ou dans beaucoup de peintres du gothique international, c'est-à-dire de la Renaissance italienne, naître au milieu de scènes de cour, au milieu de splendeur, où, si vous voulez, le Christ naît suivi d'une grande procession.
Christ presque monarque.
C'est... Monarque, absolument. Ou Christ, du moins, fêté par les monarques de l'époque. Là, non. C'est le Christ qui, un siècle après, naît par terre, devant, posé sur de la paille. Christ qui est posé dans une position qui n'a plus rien de divine, posé comme un enfant parmi tant d'autres et au milieu de gens parmi tant d'autres.
Merci beaucoup François de Malasfos. On fait une deuxième pause et puis on va se rapprocher de notre époque, même si vous me disiez en préparant l'émission que plus on avance, plus les représentations de la nativité se font rares, mais ça vaudra le coup d'en parler. Vous nous expliquerez pourquoi. Et puis on a trouvé une des exceptions, donc un tableau de Maurice Denis, donc peintre nabi. Vous nous parlerez de ce beau tableau de la nativité et de tout ce qu'il a à nous dire.
Radio Présence à Pamiers 100.2. Vivante Église, Emmanuel Pella.
L'Avent en peinture au fil des siècles, on aurait pu dire plutôt la nativité hein, en peinture au fil des siècles, c'est donc le thème en ce jour, je vous le rappelle donc de cette émission Vivante Église, et nous sommes, pour ceux qui nous rejoindraient, avec François de Malafosse, qui est commissaire-priseur à Toulouse. Troisième peinture que vous avez choisie, donc c'est une peinture de Maurice Denis, vous allez nous présenter après ce peintre, mais même exercice, je vous propose d'essayer de présenter ce tableau qui lui... Et qui dit donc que nous rapprochons de notre époque, c'est donc à la fin du 19e siècle, hein, une huile sur toile de 1894 est une nativité en ville.
Oui, absolument. C'est une nativité qui est tout à fait caractéristique de l'œuvre de Maurice Denis, c'est-à-dire qu'on retrouve évidemment ces tons extrêmement colorés, propres à cet artiste, propres à tout le mouvement Nabi auquel il appartient. Et c'est une nativité qui est extrêmement étrange puisque ça se passe dans une rue de ville, une ville qu'on devine qui se développe un peu à l'arrière avec des toits, des rues, etc.
On est en banlieue, non même, on peut presque
peut-être en
dire
banlieue,
ça,
vous ouais. avez raison. C'est pas très clair, c'est pas très net, on est un peu hors de la ville, vous avez raison que le centre-ville apparaît un peu plus loin. Le bâtiment premier dans lequel a lieu la nativité, ce qui va servir de crèche, d'étable, est un bâtiment ouvert, comme un garage, si vous voulez, qui est en briques rouges. Donc de la brique ouvrière, en quelque sorte, qui rappelle cette brique du Nord, pas notre chère brique toulousaine, et qui laisse penser, oui, voilà, qu'on est peut-être dans des faubourgs, vous avez raison, dans un bâtiment, en tout cas, qui n'est pas riche du tout. Au-dessus, il y a des femmes qui sont au balcon et qui regardent, non pas vers la Sainte Famille, mais plutôt vers la rue, dans laquelle on voit un cheval qui passe, et le cheval regarde avec certains moutons en direction de la Vierge et de l'enfant.
Donc personne d'autre hormis les animaux ne contemple cette scène.
Ce qui est très surprenant, vous faites bien de le dire, oui. C'est les animaux qui regardent la Vierge et l'enfant, qui sont tous les deux donc dans cette espèce de garage. Ils dorment. La Vierge est allongée, donc ce qui est une représentation très rare de la Vierge et qui vient nous replonger du temps de Giotto, où on avait cette Vierge allongée. Pendant la Renaissance, pendant l'époque moderne, on oublie complètement la Vierge allongée. Elle est souvent à genoux ou elle est souvent en manifestation de déférence par rapport à son fils. Hein. Là, elle est allongée comme une mère qui vient d'accoucher, tout simplement, l'est par rapport à son enfant.
Elle a les yeux fermés aussi.
Oui, absolument. Hein. Elle et l'enfant dorment. Et ce qui est très étrange, c'est que aussi on a Joseph qui est là en père protecteur, si vous voulez. Il apporte quelque chose à boire ou à manger à sa femme et il veille au-dessus. Tandis que dans toutes les peintures qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, Joseph est complètement absent. Si vous voulez. Chez Giotto, il dort en avant-plan. Chez Georges de la Tour, il n'est même pas représenté. Dans les peintres de la Renaissance, dont on avait prévu peut-être de parler, Gentile da Fabriano ou d'autres, il est à l'écart et discute avec les bergers. Il ne fait pas partie, si vous voulez, de cette scène un peu sacrée. Il est tenu à l'écart.
Là, c'est le seul qui contemple la scène, presque.
Et là, c'est le seul qui contemple la scène et c'est le seul qui protège cette mère et cet enfant qui, eux, se reposent, qui, eux, sont très unis, puisque la Vierge tient son fils par au-dessus, comme ça. Ils dorment tous les deux en se regardant, leurs yeux fermés se regardent, si vous voulez, donc comme une communication qui dépasse Joseph, mais lui est au-dessus et les protège. Voilà, donc il n'y a que quelques personnes qui les protègent, c'est Joseph et des animaux, les moutons qui regardent dans la direction, est-ce qu'ils représentent le troupeau, si vous voulez, du futur berger, c'est-à-dire nous. Et un cheval qui passe comme ça et qui se dirige vers la ville, qui se dirige vers l'activité et qui, comme en passant, semble s'arrêter pour représenter le côté apaisé de cette scène de ville.
François de Malafosse, pourquoi est-il si difficile de trouver une nativité au-delà du XVIIe siècle? Dites-nous un peu l'histoire de la nativité dans la peinture.
On a parlé de Georges de la Tour tout à l'heure et des angoisses du monde au début du XVIIe siècle et de cette nativité, si vous voulez, qui n'en est quasiment plus une, parce qu'en fait, Rien ne nous laisse penser que c'est une nativité sinon son titre. On avait une vierge à l'enfant et une femme à côté, mais en fait ça aurait pu être n'importe quelle femme, sa mère et son fils, si vous voulez. Il y a déjà la perte d'un caractère sacré dans la représentation. Et une chose qui est un peu étrange, c'est qu'à compter du XVIIe siècle, on a une quasi-disparition de la représentation de la nativité dans la peinture, qui va se manifester de manière encore plus forte au XVIIIe et au XIXe siècle. Au XIXe siècle, il y a même des autorités étatiques.
Vous me racontiez ça, mais dans les fameux salons.
Dans les salons,
on se plaignait
il y a même voilà, des autorités, puisque vous savez que, notamment sous Napoléon III, dans les salons, le pouvoir politique était très proche quand même de l'Église. Il y avait beaucoup de commandes impériales pour toutes les églises qu'on a pu construire à cette époque-là, qui sont extrêmement nombreuses, avec des commandes d'État très nombreuses. Et il y avait quand même, on s'alarmait du faible nombre de nativités qui étaient représentées. On va préférer des scènes de calvaire, des scènes de crucifixion, des scènes voilà, tirées de scènes beaucoup plus dures, ou grandes représentations des saints aussi, avec tout le mouvement saint-sulpicien. Mais on va écarter la nativité pour des raisons très diverses. Certaines ne sont pas tout à fait explicables.
Y a-t-il une explication? Oui, en fait, on sache un peu, non,
compliqué à expliquer. Est-ce que... D'abord, on n'était pas arrivé au bout d'une représentation. C'est-à-dire que en coupant complètement le monde terrestre et le monde céleste dans la représentation, on était arrivé dans le monde de Giotto ou dans le monde médiéval où tout était baigné d'une lumière égale, que ça soit terrestre ou céleste. Grâce à la nativité, on arrive. Le spectateur plongeait au milieu de ce monde céleste et en était, si vous voulez, le spectateur.
Alors qu'avec Caravage, est-ce qu'on a vu
avec
Georges
Caravage,
de la Tour,
qu'on a vu,
on était à l'extrême inverse.
À l'extrême inverse, c'est-à-dire que on arrive au milieu du monde et peut-être que la nativité est un moyen, jusqu'à maintenant, de représenter une mère et son enfant et tout cet amour qui passe par les regards, par le toucher, etc. Et peut-être que parfois la nativité était un prétexte de représenter une mère et son enfant. À partir du XVIIe siècle, on n'hésite plus à représenter des scènes de genre grâce à l'influence des peintres du Nord, où on n'hésite plus à représenter le confort bourgeois, Vermeer, etc., où on représente des scènes de maison, des scènes quotidiennes, en fait, de relations d'une servante avec une mère et son enfant. On va s'orienter plutôt vers des scènes de genre, de mère et d'enfant, plutôt que d'aller replonger dans la nativité. Ça s'explique peut-être aussi dans la nativité pour des régions un peu théologiques, c'est-à-dire que la nativité était un moyen pour l'humanité de se représenter soudée face au mystère de l'incarnation, si vous voulez. En général, quand on voit des tableaux de nativité, il y a un rang, si vous voulez, le regard du spectateur est placé en deçà de l'enfant Jésus. C'est-à-dire qu'on... On est tous à genoux, si vous voulez, au pied de ce mouvement très important qu'est l'incarnation du message de Dieu sur cette terre. Et on est présentés en dessous, tous unis dans un peuple chrétien. À partir peut-être de la révolution copernicienne, à partir de la réforme aussi, avec la scission du monde chrétien en deux, on a peut-être la fin de cette unité face à l'incarnation, et peut-être, c'est une explication parmi tant d'autres, une autre serait peut-être l'humanisme aussi, si vous me permettez, qui va séparer complètement le monde terrestre du monde céleste, et peut-être voilà, une perte un peu d'intérêt pour la représentation de la nativité.
Alors comme je crois qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, je voudrais que vous nous en disiez un petit peu plus sur Maurice Denis.
Oui.
Donc il fait un peu figure d'exception, si j'ai bien compris, à son époque. C'est un peintre qui... C'est une forme de peinture sacrée, est-ce qu'on peut dire ça comme ça?
Oui, absolument.
En tout cas, qui avait une réelle intention, qui était de donner à voir Dieu, rendre Dieu accessible, même si on n'avait pas de grandes facultés intellectuelles. On va dire on continue quelque part ce mouvement avec peut-être moins de familiarité ou je sais pas, peut-être un peu plus de poésie, en tout cas, à regarder cette nativité que ça ne l'était pour le Caravage.
Oui, alors Maurice Denis est un peintre de la fin du 19e siècle qui est catholique, qui le revendique, ça a une importance, si vous voulez, dans sa vie, mais ça a aussi une importance dans sa peinture. C'est-à-dire que Maurice Denis va vouloir faire une peinture sacrée à la portée, une peinture sacrée inscrite dans cette nouvelle modernité et à la portée, si vous voulez, des regards actuels, sans les symboles débarrassés des symboles qu'on peut trouver à l'époque, une peinture moderne et sacrée. Cette peinture symboliste, elle est importante parce qu'elle vient, si vous voulez, contrebalancer le mouvement naturaliste qu'on peut avoir avec Courbet au milieu du 19e siècle.
Mouvement naturaliste, c'était
C'était Courbet, c'était en fait montrer le réel dans tout ce qu'il a de plus cru et dans tout ce qu'il a de plus dur. Montrer des ouvriers, montrer le monde du travail, montrer tout ça. Les symbolistes vont dire, oui, d'accord, c'est très bien de faire ça, mais il n'y a pas que ça. Le monde, l'homme ne se résume pas à ce qui est terrestre, à des ongles sales et au monde du travail. Il a aussi autre chose, un autre côté, quelque chose qui est du domaine des symboles. Comme Donc il va y avoir deux branches. Il va y avoir les symbolistes laïcs, en quelque sorte, qui vont montrer les Rose-Croix, par exemple, qui vont montrer tout un monde supra-terrestre, mais pas franchement, pas ouvertement chrétien. Et puis d'autres, comme Maurice Denis, qui eux sont ouvertement chrétiens, et ont pour but donc de montrer que l'homme est certes, comme disaient les naturalistes, ou comme disait la peinture de cette époque, eh bien, qu'il est aussi, il habite les faubourgs, il travaille, il est à sa fenêtre, voilà, c'est un homme moderne, mais c'est un homme aussi qui voit au milieu de cette modernité surgir le sacré. Et c'est en ça que la peinture de Maurice Denis est assez exceptionnelle, c'est-à-dire quel est le lien entre l'au-delà et le terrestre et entre la modernité et une tradition de la peinture ancienne. C'est-à-dire que, autant chez Georges de la Tour, on était à hauteur. C'était une scène extrêmement intime. Là, on a plein de choses, plein d'éléments qui nous laissent penser qu'on retourne même à Giotto. C'est-à-dire que, oui, il naît dans un garage de briques, mais en fait, il naît hors de la rue. C'est-à-dire le retour à l'étable, le retour à cette étable qui symbolise peut-être l'Église, le monde clos de l'intime et de la foi, du céleste par rapport au terrestre et à la vie publique.
Une dernière question, dans la minute ou les deux minutes qui nous restent, François de Malafosse. Après Maurice Denis, c'est le grand vide. Est-ce que dans la peinture d'après-guerre, par exemple, il y a quelques peintres ou qui font exception ?
Il y a sûrement des peintres religieux et il y a sûrement une peinture religieuse qui existe et qui est active, si vous voulez. On le voit dans de nombreuses petites expositions, mais déjà, évidemment, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a un courant très fort d'abstraction, donc il n'y a pas pour but de représenter le sacré, il y a pour but de l'invoquer, mais pas de le représenter. C'est deux choses très séparées. Dans toute la peinture figurative, je ne vois pas véritablement de nativité. J'ai cherché un peu, j'en ai pas vu. Il n'y a pas de peinture. Le sacré est devenu un peu du domaine de l'abstrait. Et on va l'invoquer grâce à des symboles abstraits, plus qu'on va chercher à le représenter. Et c'est véritablement une vraie révolution que l'époque contemporaine pour la manière dont on conçoit le sacré, qui est de ne plus le montrer par des images, mais de l'invoquer à travers des symboles, des couleurs, etc.
Eh ben, merci beaucoup François de Malafosse d'avoir fait le détour par nos studios pour cette promenade artistique.
Merci à vous.
Trois tableaux que les auditeurs peuvent, on va dire, regarder pour méditer ce mystère de la nativité qui est pour bientôt. Giotto, Georges de la Tour et Maurice Denis, au moins.
Et beaucoup d'autres dans les églises de Toulouse.
Merci beaucoup François de Malafosse. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook, et puis on mettra les trois tableaux sur Facebook aussi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.